de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, Cinérama, c'est une émission consacrée évidemment au cinéma. Nous parlons de films qui sont sur les écrans et puis nous écoutons aussi des réalisateurs. Ce sera le cas avec deux réalisateurs en compétition à Cannes. Il y aura d'un côté Saïd Roustahi pour le film Woman and Child, dont je vous parlerai, et puis Oliver Hermanus pour Le Son des Souvenirs. Et toi, Sophia, deux films.
Oui, Vincent, je vous parlerai d'un film américain, Marty Supreme, d'un des frères Safdie, et également un film japonais, 5 cm par seconde, d'Okuyama.
Et puis Guillaume, qui n'est pas avec nous dans les studios, parlera du film de Bradley Cooper. Il parlera aussi du dernier documentaire de Raoul Peck. Et puis moi, je rajouterai à cette liste le film de Mariam Touzani, Rue Malaga. C'est Cinérama qui débute avec Timothée Chalamet, qui a quitté le désert de Dune et puis la peau de Bob Dylan pour jouer au ping-pong. Nous parlons de Marty Supreme.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
J'ai une question à te poser. Tu te fais de l'argent avec ton tennis de table?
Pas encore.
Tu as un travail?
Non.
Marty Supreme, c'est le nouveau film de Joshua Safdie, un Safdie au singulier donc, et non plus les Safdie. Les deux frères Josh et Benny travaillaient main dans la main depuis plus de 20 ans, des marges du cinéma indé new-yorkais jusqu'au succès critique et public, hein, comme pour Good Time en 2017 avec Robert Pattinson. Mais avec la sortie l'automne dernier de The Smashing Machine, avec Dwayne Johnson en combattant de MMA signé Benny, puis la sortie cette année de Marty Supreme avec Timothée Chalamet en joueur de ping-pong, signé Josh, eh bien ça y est, c'est la fin de leur fraternité professionnelle. Mais pas la fin d'un style. Des arts martiaux mixtes au ping-pong, il n'y a qu'un pas, car on retrouve chez les deux frères cette inclination pour des personnages en mode survie, lancés à toute berzingue dans une fuite en avant qui les transforme en perdants magnifiques. 9 nominations aux Oscars déjà pour ce Marty Supreme et un Golden Globe du meilleur acteur pour Timothée Chalamet qui s'est, pour le rôle, formé au ping-pong en hard bat, une nouvelle métamorphose, donc après son Bob Dylan dans Un parfait inconnu, où il incarnait lui-même tous les morceaux du film, parfois même mieux que le folk rocker en personne. Et côté promo, des lâchers de balles orange sur Hollywood, du merch hors de prix à l'effigie du film avant même sa sortie, et un acteur resté, pour le meilleur et pour le pire, dans son personnage lors des interviews promotionnelles. De quoi faire monter la hype, comme on dit, une stratégie marketing dans l'air du temps, comme on l'a vu avec Margot Robbie en tenue quasi diégétique pour la promo du récent Hurlevent, ou avec le duo d'actrices très calibré de Wicked.
Revers, tout droit.
Tu vis de quoi?
Ma confiance me fait vivre. Je crois en moi, l'argent suivra.
Qu'est-ce que tu feras si ton rêve ne se réalise pas?
Ça ne me traverse même pas l'esprit.
Peut-être que ça devrait.
Marty Supreme s'inspire de la vie de Marty Reisman, né dans le Lower East Side de Manhattan en 1930, parmi bon nombre d'autres juifs pauvres. Sa mère Sarah est une immigrée russe, son père Maurice chauffeur de taxi, bookmaker et adepte des tables de jeu. Mon père était un perdant compulsif, dira Mauser dans son autobiographie. Dans ce faux biopic pas tout à fait comme les autres, on suit donc l'ascension de ce joueur de ping-pong professionnel à une époque où cette discipline n'est guère populaire. Un joueur qui ne manque pas de confiance en lui, persuadé d'être promis à un destin hors du commun. Marty Mauser, un double fictionnel de Reisman, s'imagine plus brillant qu'il ne l'est réellement, bricolant son propre mythe à coups de récits et d'auto-justifications, manipulant tout le monde autour de lui jusqu'à transformer sa trajectoire sportive en épopée personnelle chaotique. Exubérant, pédant, il a quelques idées de génie, l'invention de balles de ping-pong orange par exemple, et bien sûr quelques coups de génie, que ce soit avec sa raquette ou ses larcins.
Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir.
T'as besoin d'aide, je peux t'aider.
Tu veux recommencer les arnaques?
C'est le moment de sortir ton blé.
Ouais,
176, 177, 177,
Marty Mauser est de retour.
On peut voir dans Marty Supreme un grand film sur le ping-pong, ou plutôt sur la masculinité toxique. Hein. En racontant la trajectoire aussi spectaculaire que pathétique de ce protagoniste antipathique, le film dévoile une figure masculine dont on se lasse au gré du film. Hein. Arrogant, mégalo, imprévisible, hyper bavard, égocentrique à souhait. Alors pourquoi ça fonctionne ? Parce que le film ne cherche jamais à le glorifier. Au contraire, il se joue des codes du récit sportif comme du biopic, hein, donc de ces films traditionnellement conçus à la gloire des hommes, pour mieux étrier ce stéréotype. Et cela passe par un dispositif narratif très immersif, nous faire pénétrer dans la tête de Marty, hein, dans les histoires qu'il brode pour donner du sens à ses échecs comme à ses victoires. Même la bande-son hein, participe à ce décalage, bien que l'histoire se déroule dans l'Amérique des années 50, Josh Safdie opte pour une BO entièrement ancrée dans les années 80, avec New Order, Alphaville et leur Forever Young en ouverture, ou encore Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears, qu'on entend d'ailleurs dans la bande-annonce. La mise en scène, elle, nous colle au plus près de ce personnage, de son corps toujours en mouvement, de son esprit en ébullition, mais ce sont surtout les contre-champs qui marquent, hein, les regards des autres, hommes comme femmes, hein, révélant peu à peu l'égoïsme de ce sportif prêt à tout sacrifier pour le succès.
Calme. Tu veux te battre ? Comme un primate ?
Rends-nous notre argent !
Loin de glorifier la suprématie de ce Marty suprême, le film s'attaque surtout au mythe américain du succès par le mérite, à cette promesse d'ascension sociale qui voudrait que chacun puisse échapper à sa condition à force de volonté. Chez Safdie, cette fuite hors des carcans sociaux tient presque de la manie, une énergie fébrile, obsessionnelle qui pousse ses personnages à rejeter leur déterminisme social, quitte à se raconter des histoires pour tenir debout. Hein. Et sans cette folie, ils seraient condamnés à subir. Donc il y a quelque chose d'assez magnifique dans cet élan hein, qui les pousse à questionner le cadre et tenter d'en sortir, même si Marty donne clairement le tournis, et même si face aux plus puissants, malgré les plus beaux coups, la partie est peut-être toujours perdue d'avance.
Eh bien, si Timothée Chalamet jouait aussi bien que Bob Dylan, on pourrait organiser un tournoi de ping-pong avec les frères Lebrun cette fois-ci, voir s'il s'en sort bien. Marty Supreme est en salle actuellement. Le son des souvenirs explore la mémoire et le deuil à travers le lien intime entre musique et souvenirs. C'est un film qui était en compétition à Cannes et nous en parlons maintenant.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Le son est invisible. Mais il peut être physique. Il peut toucher quelque chose, il peut laisser une empreinte.
Lionel Worthing est un prodige de la musique issu d'une famille paysanne pauvre qui a une capacité à visualiser les sons. David Smith provient, lui, d'un milieu plus privilégié et se destine également à la musique. Tous deux étudiant dans un conservatoire, ils se rencontrent hein, pour la première fois en 1917 et leur amour commun pour la musique folklorique va les rapprocher. D'abord artistiquement, puis intellectuellement et enfin romantiquement. Bien que la Grande Guerre les sépare, ils se retrouvent une fois la paix retrouvée lorsque David, hein, qui travaille comme chercheur dans un collège, demande à Lionel, revenu à la ferme familiale, de l'accompagner dans un projet de plusieurs mois pour collecter des chansons folkloriques dans la Nouvelle-Angleterre rurale. S'ensuit alors l'interrogation de ce qui subsistera de leur relation après la clôture de ce projet, car la vie est comme une note sur une partition de musique, à la fois bien réglée, mais à la mélodie imprévisible suivant l'humeur et les aspirations de celui qui l'interprète.
Ça t'arrive de te demander ce que tu veux faire de ta vie ?
Pas vraiment.
J'ai un hobby tous les étés. Je collecte des chansons. Viens avec moi.
Mets ta main sur ta gorge.
Fais...
Tu sens quelque chose ? C'est le sang.
Ça t'inquiète ? Ce qu'on fait ?
Ce qu'on fait ?
Tu sais, ça...
Ça m'inquiète pas.
Je crois que je t'admire.
On le voit venir, hein, la comparaison avec Brokeback Mountain d'Ang Lee est presque inévitable. Les deux films abordent des thématiques de la passion sincère et profonde révélée par un art et un mode de vie, mais aussi celle de la perte inévitable et du regret qui s'en vient. Les deux films suivent des trajectoires étonnamment similaires. Un milieu social restrictif, deux personnes isolées du monde, une séparation, un mariage avec d'autres personnes et une disparition soudaine. Le son des souvenirs se concentre davantage sur le parcours de Lionel et relègue David au second plan. Du coup, le récit adopte une vision incomplète de leur relation et laisse des zones d'ombre volontaires qui ne seront éclaircies que tardivement, mais sans grande conviction. Alors avec subtilité, hein, Paul Mescal porte le poids émotionnel du personnage plus réservé de Lionel, tandis que Josh O'Connor incarne David, plus audacieux, avec une résignation presque mélancolique. Chris Cooper, dans le rôle de Lionel plus vieux, hein, beaucoup plus vieux même, confronté à son passé, crève l'écran et rappelle pourquoi il est l'un des plus grands acteurs de sa génération. Atmosphère, hein, et l'approche méditative recherchée par le réalisateur, hein, Oliver Hermanus sont clairement mises en valeur par ses choix de cadres posés et contribuent à retranscrire une époque et son ambiance folklorique d'une belle manière, mais peine à exister en tant que drame romantique. Alors, malgré la très grande qualité des interprétations, hein, les personnages manquent paradoxalement de réelle profondeur, d'intérêt et même d'alchimie, hein, pour qu'on s'y attache réellement, au contraire d'une bande-son qui véhicule l'âme recherchée par son metteur en scène. Bah écoutez, c'est déjà ça, hein, pour un film tournant autour, bah, du son.
Ce film, Le son des souvenirs, nous donne l'occasion d'écouter Oliver Hermanus, qui était donc en conférence de presse au Festival de Cannes.
Oui, Brokeback Mountains, oui, on y a pensé, bien sûr. Quand on fait ce genre de film, on sait que les gens vont faire le rapprochement. C'est faux, c'est faux. Ces acteurs qui jouent cette relation de tendresse, d'amour, c'est pas forcément la réincarnation d'un film qui a 20 ans. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de films sur ce sujet d'amour masculin, d'hommes entre eux, et la plupart des films traitent le sujet. Et l'idée, pour moi, c'était pas la complication sexuelle, etc., etc. Ce qui les a séparés, entre guillemets, c'est l'hypothèse qu'ils auraient peut-être d'autres amours dans leur vie. Et puis David part à la guerre, et là, bien sûr, il y a une souffrance intérieure qui est terrible. Ça le diminue. Et Lionel, lui, le personnage, eh bien, doit continuer à survivre. Et il se rend compte que son premier grand amour, eh bien, il comprend que ce sera son dernier amour. Et c'est pas une question de dire, allez, il faut beaucoup de sexe, etc., dans le film. Et... le speech de Chris Cooper à la fin du film dit « Je ne veux rien changer. Je n'aurais rien changé. » Et parfois, il y a des conversations que vous auriez aimé avoir avec les gens que vous aimez. Et je pense que là, il y a un sens de la tragédie profonde dans la perte d'un être aimé. Mais à la fin, le constat, finalement, c'est de dire « Ben voilà, j'ai vécu la vie que j'ai vécue. » Mais je l'ai vécu à fond, et je crois qu'il n'y a pas de message plus sublime que celui-ci.
C'était Olivier Hermanus pour le film Le son des souvenirs, en salle depuis le 25 février. Une retraitée espagnole à Tanger lutte pour conserver son appartement. Nous parlons de rue Malaga.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Maria est à l'aube de ses 80 ans, espagnole. Elle vit seule à Tanger depuis de longues années au sein d'une importante communauté espagnole ayant émigré au Maroc. Cette femme, dont la vie semble paisible, voit tout s'effondrer lorsque sa fille, venue d'Espagne lui rendre visite, lui annonce qu'elle va vendre l'appartement dans lequel vit sa mère. En instance de divorce, elle doit gérer ses affaires et le bien immobilier lui appartient. Un choc, hein, pour Maria, sommée de se résigner à rejoindre sa fille en Espagne, un pays qu'elle ne connaît plus, hein, doit entrer à l'hospice des anciens espagnols de Tanger. Alors elle s'y rend un temps, hein, avant de retourner vivre clandestinement chez elle, partageant un secret avec l'agent immobilier, elle parvient à se le mettre dans la poche et à duper sa fille.
Buenos días, Mohamed.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
C'est en s'inspirant de sa mère et de sa grand-mère que la Marocaine Mariam Touzani a écrit ce personnage de septuagénaire, incarné avec brio par Carmen Mora, l'actrice qui a longtemps accompagné Pedro Almodovar. La réalisatrice signe ici un film qui a remporté le prix du public à la Mostra de Venise, une envolée douce portée par les senteurs et la lumière de Tanger. Alors Maria n'est pas le portrait d'une femme âgée devenue aigre, hein, et tournée vers le passé, mais celui d'une personne solidement ancrée dans son présent, le regard vif, toujours un coup d'avance. Elle refuse d'être poussée hors de chez elle, et plutôt que d'accepter le sacrifice au nom de sa fille, hein, elle engage une véritable stratégie de reconquête de soi, nourrie par une rencontre fortuite et stimulante, puis par la mise en place d'un petit business lui permettant de continuer à vivre selon ses propres termes.
Vale.
Ya fue suficiente.
vamos a tener problemas.
Business is business.
Me dijiste que me amaba.
Le ton adopté par Mariam Touzani est celui d'une grande sobriété de mise en scène. La réalisatrice accorde une attention particulière aux intérieurs, qu'ils soient vides ou habités, et aux objets qui ont accompagné la vie de Maria, chargée de mémoire et de sens. Alors cette mise en scène volontairement effacée met en pleine lumière son personnage principal, une femme espiègle, énergique et profondément attachante, qui entretient depuis longtemps une relation de confidence avec une religieuse prête à tout entendre. C'est des moments vraiment savoureux. Un film réjouissant, hein, au charme discret, avec un délicat parfum de feel-good movie, du troisième âge. Ce film Rue Malaga de Mariam Touzani est en salle depuis le 25 février. Is This Thing On accompagne un homme qui se lance dans le stand-up pour reprendre sa vie en main. Nous parlons du film de Bradley Cooper.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Il y a quelques semaines, nous avions vu que le sujet de Gourou avait été amené à Ian Gosselin par Pierre Niney, fasciné par sa découverte de l'univers des coachs influenceurs. Mais c'est la même chose pour Is This Thing On, dont l'histoire vraie de John Bishop a été découverte par l'acteur Will Arnett, qui l'a proposé à son ami Bradley Cooper. Auréolé des mises en scène de A Star Is Born et de Maestro, ce dernier a ainsi trouvé le sujet de son film suivant, qui est néanmoins passé par la case réécriture pour mieux coller aux thématiques de Cooper, quitte à modifier un peu la tonalité du sujet d'origine. Après le beat de Maestro, qui, même s'il n'est pas sorti en salle mais sur plateforme, n'a pas gagné aucune des récompenses visées aux Oscars, BAFTA, Golden Globes et Mostra de Venise, mais bien pas sûr que Cooper retrouve les sommets du box-office de A Star Is Born, malgré son sujet aussi improbable que vrai. En parlant de Maestro, musique. L'histoire de John Bishop est assez géniale. C'est celle d'un Britannique qui vient de faire un gros break avec sa femme et qui décide, sur un coup de tête et pour éviter de payer les 4 pounds d'entrée dans un pub local, de s'inscrire à la soirée scène ouverte. Il prend le micro pour se produire dans un numéro de stand-up au cours duquel il raconte tout ce qui se passait alors entre lui et sa possible ex-épouse et l'improbable sur 20. Non seulement il trouve l'exercice thérapeutique, mais il commence à renaître et à se faire un petit public. La chrysalide continue jusqu'au soir où sa plus ou moins encore femme se retrouve par hasard dans le public, prend plutôt bien la chose de voir celui qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'aimer bourgeonner à nouveau et, ensemble, ils entament un chemin vers une réconciliation qui sera le prélude à une belle carrière dans le stand-up qui continue aujourd'hui. On écoute un morceau de la BO. John Bishop l'a dit avec humour qui le caractérise. Il a lu le scénario envoyé par Bradley Cooper, a proposé certaines blagues et modifications, choses qui n'ont pas été gardées au final pour la version que l'on connaît avec Is This Thing On. Alors c'est étrange car l'histoire avait tout du conte de fées moderne, comme sa version de A Star Is Born, mais Cooper ne garde de ce dernier que l'américanisation totale du concept. Alors à vrai dire, on rit peu devant Is This Thing On, c'est même plutôt sinistre parfois, même dans les moments plus légers, tant le film respire la crise de la cinquantaine mal digérée. Alors rappelons qu'une œuvre dit beaucoup de choses de son auteur, et peut-être que la relecture de la vie de Bishop par Cooper tend vers une introspection de sa stature plus ou moins fragile de réalisateur et star à un âge où le doute de la pertinence vient souvent s'imposer. En résulte un récit mi-figue, mi-raisin, tourné intégralement à l'épaule façon John Cassavetes, et penche plus dans une mélancolie urbaine qu'une renaissance british décalée. Will Arnett rejoue la partition tristounette de BoJack Horseman et n'est littéralement pas drôle dans ses interventions sur scène. Alors si le film n'est pas désagréable, il constitue peut-être un acte manqué quant à son sujet qui embrasse encore une fois la destinée parfois contrariée et torturée d'un artiste, confirmée ou en voie de l'être. En ce qui concerne la révélation et la contre-attaque comme philosophie via le stand-up, la série La Fabuleuse Madame Maisel ou encore le chef-d'œuvre Lenny de Bob Fosse restent des références en la matière.
Ce film de Bradley Cooper est en salle depuis le 25 février. Woman and Child suit une mère et son fils confrontés aux tensions sociales et familiales de leur quotidien. Nous parlons du dernier film de Saïd Roustaï.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Après Leila et ses frères, où les hommes semblaient agir à peu près n'importe comment dans un Téhéran pris entre tradition et modernité, Saïd Roustahi en remet une couche en suivant une nouvelle fois un personnage féminin dans Woman and Child. Le réalisateur iranien, qui comme nombre de ses confrères a connu la prison, ne vise pas tant directement le pouvoir politique que l'ordre patriarcal. En Iran, il n'est guère question de MeToo, d'égalité des sexes ou d'autres concepts hérités du féminisme. Manaz est infirmière, elle élève seule ses deux enfants, une fille et un adolescent plutôt turbulent, avec l'aide de sa mère et de sa sœur. Alors son compagnon, ambulancier, tarde à l'épouser et la presse pourtant de passer à l'acte. L'un des nœuds du film réside dans le refus de cet homme d'avouer à sa famille que Manaz est mère de deux enfants. Elle se résout alors à les confier à leur grand-père paternel, peu soucieux de cette progéniture, et de cette décision découle un événement qui fait basculer le drame social vers la tragédie.
این وسایل بچه ها رو هم یه دو سه روز جمع کنی جلی چشم نباشه
کدومشون مریض شده یا اتفاقی افتاده
Une fois le pied dans l'engrenage, Saïd Roustahi exige du spectateur qu'il le suive sans faillir. L'accumulation d'événements, couche après couche, pourrait fonctionner alors dans un thriller. Ici, elle alimente un mélodrame parfois étouffant. Le cinéaste n'en déploie pas moins une mise en scène efficace, importée par un montage nerveux qui accentue le malaise d'une femme, tour à tour trompée, trahie, salie. Alors cloisons, appartements, barreaux, grilles et fenêtres composent un univers d'enfermement où les personnages apparaissent prisonniers d'une société qui nie la liberté des femmes et plus largement celle des mœurs. Le personnage masculin du compagnon est particulièrement alors gratiné, mais il ne doit pas être vu autrement que comme un homme qui subit la tradition sans jamais la remettre en question. Dans ce film, Saïd Roustahi condamne frontalement la société patriarcale iranienne en déployant une mécanique de violence fondée sur l'outrance des droits accordés à ceux qui dominent et sur leur capacité de nuisance dès lors qu'ils détiennent le pouvoir. Les personnages féminins apparaissent plus mesurés, même si l'on constate que l'héroïne, dans sa tentative d'émancipation, trouve peu de soutien. La sororité n'est pas de mise. Alors au terme du récit, comme souvent dans le cinéma iranien, cette femme passée de la soumission à la rébellion se retrouve face à un dilemme moral. Reste que la méthode employée par le réalisateur se révèle trop démonstrative et manque de nuances. C'est sans doute là, dans cette surenchère, que le film se distingue négativement de ses précédents longs métrages, Leila et ses frères et la loi de Téhéran, qui avaient, eux, fait l'unanimité. L'an dernier, le grand vainqueur du Festival de Cannes était, du côté iranien, bien sûr, Jafar Panahi, qui a remporté la Palme d'Or. N'empêche que ce film vaut quand même le coup d'œil. Woman and Child est en salle depuis le 25 février, et nous écoutons le réalisateur qui était à Cannes en compétition.
J'ai fait trois films sur le personnage féminin. Sur les deux autres films, en fait, les femmes avaient été dépendantes des hommes, tandis que dans celui-ci, la femme n'est pas dépendante. Elle fait tout seule. Elle va lutter, elle va pardonner, elle va se venger. Et je pense que c'est mon personnage féminin le plus indépendant. Et ce qu'on voit dans ce film, en fait, c'est une composition de différents personnages qu'on voit dans la société iranienne. Ça ne vient pas de mon imaginaire, c'est vraiment dans la société. Je vois de plus en plus combien les femmes deviennent indépendantes dans la société iranienne. Pendant 6 mois, je cherchais les autorisations et donc c'était impossible pour moi de faire des films. Et ils m'ont donné les autorisations. À un moment donné, ils se sont dit qu'il n'aura jamais le temps de finir son film pour le Festival de Cannes. Mais franchement, si mon personnage féminin, en fait, c'est ce qu'on voit dans la société iranienne. C'est ce personnage est vraiment le résultat de la société iranienne. Moi, je suis très influencée par la société iranienne.
C'était Saïd Roustahi au Festival de Cannes pour le film Woman and Child. 5 cm par seconde raconte une histoire d'amour à distance marquée par le temps qui passe et l'éloignement. Nous en parlons maintenant.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
5 cm par seconde est un drame romantique en prise de vue réelle réalisé par Yoshiyuki Okuyama. Et c'est une adaptation, celle du film d'animation culte japonais de Makoto Shinkai. Le récit se déploie sur deux périodes majeures de la vie de Takaki, de son enfance à sa vie d'adulte, et explore l'empreinte indélébile qu'une première relation peut laisser sur une vie.
Je pensais que si on vivait aussi longtemps, c'était forcément pour arriver quelque part. Quand ai-je arrêté d'y croire ?
Quand tu penses que tes chances de rencontrer quelqu'un sont de 0,0003%.
Hé, Takaki ! L'année prochaine, j'espère qu'on reverra les cerisiers en fleurs.
Takaki, on pourra pas aller au collège ensemble. Je suis vraiment désolée, Takaki.
En 2008, Takaki approche la trentaine et mène une vie plutôt solitaire à Tokyo, absorbée par son emploi de programmeur informatique. Il fréquente une collègue de travail pour qui il ne semble pas éprouver grand-chose. Et sous cette existence stable et un brin austère se cachent les souvenirs d'un passé plus radieux. Il se souvient de l'année 1991, lorsqu'il a rencontré Akari à l'école et qu'un lien unique s'est tissé entre eux, fondé sur des conversations intimes et une fascination commune pour le ciel et les promesses de la vie. C'est ainsi que le récit se déploie sur deux périodes majeures de la vie de Takaki, de son enfance à sa vie d'adulte, de ce moment où deux enfants se promettent de regarder ensemble chaque année les fleurs de cerisier tomber à la vitesse de 5 cm par seconde, à ce moment où la vie, ou plutôt la géographie, s'interpose, un déménagement, des kilomètres qui s'accumulent, des trains qui passent et une relation qui ne survit plus aux échanges épistolaires.
Peut-être que la distance finit par avoir raison de leurs sentiments.
J'ai fait une promesse à quelqu'un.
Je t'attendrai à la gare d'Iwafune à 19h.
La narration fait résonner l'enfance et l'âge adulte comme deux strates émotionnelles qui s'entrecroisent sans jamais se rejoindre complètement. Tantôt, la caméra est au plus près des enfants qui semblent vivre dans une bulle intime presque sans figure parentale, créant l'impression d'un univers presque animé, irréel. Et tantôt, l'esthétique du film se transpose d'une strate temporelle à l'autre. Dans chaque plan, qui s'attarde sur des gestes simples, sur la lumière d'une saison, sur le silence d'une gare ou d'un couloir, et donne à l'ensemble une poésie diffuse, contemplative. Une dimension sensorielle et émotive qui touche et transporte, mais qui, à partir d'un certain point, peut générer une overdose de douceur avec cette narration qui préfère le frôlement à l'explosion, la suggestion à l'affirmation, et qui parfois donne l'impression d'une longue balade nostalgique. Un peu comme dans le précédent film d'Okuyama, My Sunshine, ce qui ne manque pas d'entériner son style.
L'héritage de George Orwell et l'actualité de sa pensée politique aujourd'hui sont analysés par Raoul Peck dans son dernier documentaire.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Si 2025 a pu un peu décevoir, tant les films dits politiques se sont paradoxalement révélés trop sages à cause de leur traitement parfois trop exubérant, 2026 montre sévèrement les dents avec le retour du trublion Raoul Peck à la manœuvre derrière un nouveau documentaire engagé. Il continue ce qu'il a toujours entrepris avec panache, décortiquer ce qui ne va pas dans nos sociétés modernes, l'écrou en avant et la gifle facile. Avec son dernier film qui se concentre sur les œuvres de George Orwell, dont le célébrissime 1984, il ne pouvait pas mieux sonner les cloches de notre époque surprenante. Protégé, surmédiatique et désormais révolutionné en profondeur par le numérique et l'IA. Prenant la forme d'une lecture du journal d'Orwell, Peck nous invite tout autant à une radiographie documentaire qu'à un essai philosophique sur les manquements et abandons de nos dirigeants ayant amené au monde auquel on vit actuellement et qu'Orwell avait bien pris soin de nous apprendre à s'en préserver en vain.
Le concept même de vérité objective est en train de disparaître de ce monde.
I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone.
Cette perspective m'effraie, bien plus que des bombes.
Ça semble commencer doucement, avec des lents plans de paysages, mais c'est pour mieux mordre dans son montage. Peck adopte une approche brute dans le portrait de l'œuvre d'Orwell et noie le spectateur sous un déluge d'images qui font à la fois sens, puisqu'elles appuient les propos de l'auteur, et servent d'illustration moderne comme autant d'aveux de faiblesse de nos nations assujetties par la modernité. Alors la vision qu'Orwell aurait du monde et son possible futur sont ici exposées via une mise en garde sur la manière dont la réalité et la société peuvent être modifiées à cause d'une politique fascisante et des penchants sombres de l'humanité envers le pouvoir et son prochain. La terrible impression qui en ressort est qu'Orwell fut un lanceur d'alerte tellement formidable avec La ferme des animaux puis 1984 qu'il ne pouvait être qu'inaudible face à la paresse du confort à l'époque de l'individualisme total. Le combat que Peck mène à travers les mots d'Orwell, la lutte contre la novlangue qui a envahi nos discours à l'heure de la post-vérité des réseaux sociaux et du tout mondialisé, est d'ailleurs ce qui donne le ton dans le sous-titre de son film 2 plus 2. 2 égale 5. Il est difficile de rester de marbre devant un tel bilan hein, qui relève quand même d'une évidence cauchemardesque. On en rêverait presque hein, qu'un Snake Plissken, comme chez John Carpenter, en vienne à éteindre la planète pour que l'humain relève la tête et brise ce que l'on espère être qu'un miroir déformant et pas réfléchissant.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras un film, Sophia.
Oui, je parlerai de Pillion, de Harry Lytton.
Et puis Guillaume nous parlera au moins de Scream 7 et moi je vous parlerai de La Maison des Femmes. À la semaine prochaine.